Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique consacrée à l'Irak. L'Irak est depuis plusieurs semaines le théâtre d'un grand ballet diplomatique. Visite éclair et surprise de Donald Trump fin décembre, suivie de celle de son secrétaire d'État Mike Pompeo début janvier. Déplacement du roi Abdallah II de Jordanie, première visite depuis 10 ans, ont également fait le voyage de Bagdad en ce début 2019. Le ministre iranien des Affaires étrangères, son homologue français Jean-Yves Le Drian ou encore le chef du gouvernement italien. Frontalier de la Syrie en guerre, de la Jordanie, du Golfe et de l'Iran, l'Irak est la source de beaucoup d'attention et d'inquiétude aussi. Après l'annonce du retrait des 2000 soldats américains stationnés en Syrie, la plupart des troupes des pays de la coalition anti-djihadiste, États-Unis en tête, se trouvent désormais en Irak. Bagdad a proclamé la victoire contre l'État islamique fin 2017, mais l'organisation n'a pas pour autant disparu, qui continue de mener des attaques meurtrières. Regard sur les défis de ce pays pétrolier à l'État fragile, écartelé entre ces deux grandes alliances américaines et iraniennes. Nos invités, Hélène Salon, journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de l'État islamique de Mossoul aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Myriam Benrad, politologue, spécialiste du monde arabe, professeur associé en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas. L'Irak, par-delà toutes les guerres, idée reçue sur un État en transition et son dernier ouvrage aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine aux États-Unis a été marquée par le discours du président américain sur l'état de l'Union et une réunion à Washington des 79 membres de la coalition représentant 74 pays. Première réunion depuis l'été. Pour l'administration Trump, la rencontre avait trois objectifs principaux après donc l'annonce du retrait de soldats américains de Syrie. Réaffirmer le soutien au gouvernement irakien et aux partenaires sur le terrain. Définir la feuille de route de cette année et s'assurer que la coalition disposera des moyens nécessaires. Et enfin, rendre Daesh responsable de ses actes devant la justice. Sur ce dernier point, Washington a appelé tous ses alliés à rapatrier les combattants emprisonnés en Syrie et en Irak pour les juger dans leur pays d'origine. Un commentaire chacune à ce que cette réunion de Washington.
Bon, c'est surtout sur la Syrie que c'est important, comme on sait qu'il y a l'amorce du retrait américain avec un calendrier. Dans la presse américaine, on parle peut-être même d'avril hein, pour finaliser le retrait. Donc c'est vrai que c'est une réunion qui est importante pour tous les alliés. Les Français sont présents en Syrie. Pour ce qui est de l'Irak qui nous intéresse, ça va certainement devenir un peu l'arrière-cour de ce fait-là des forces de la coalition sur la Syrie avec des possibilités d'intervention depuis le territoire irakien, que ce soit en artillerie, en vol et peut-être en incursion. Donc voilà, cette réunion est surtout importante pour ça, pour penser le désengagement en Syrie.
Myriam Benrad.
Enfin, je dirais que c'est les facteurs immédiats, mais en réalité, ce que ça confirme dans le temps long, c'est que l'Irak reste la priorité stratégique pour les États-Unis, du fait d'une longue présence dans le pays, qui est aujourd'hui d'ailleurs au cœur du débat politique irakien, on en parlera ensuite. Et ça confirme le fait qu'il n'y a jamais eu véritablement d'engagement de long terme ou stratégique au sens de doctrine de la part des États-Unis, contrairement par exemple à la Russie, qui évidemment a pour sa part une vision, contrairement aux Américains. Donc le désengagement, après, il y a eu toute cette valse hésitation depuis Washington, ces déclarations contradictoires sur le calendrier, sur les objectifs, sur la question d'un maintien de quelques contingents, etc. Mais au fond, ça prouve simplement que l'Irak est le précaré des Américains, contrairement à la Syrie, qui n'a jamais été qu'une, finalement, un espace d'engagement contre l'État islamique, mais non pas de développement, comme je l'ai dit, d'une doctrine ou d'une vision, d'une volonté même de rester à long terme.
Alors, Irak précaré des Américains, c'est intéressant de se poser sur les questions géopolitiques à propos de l'Irak. Alors déjà, première question, est-ce qu'on peut voir les États-Unis décider finalement de laisser la Syrie à l'Iran et à la Russie et de prendre place pleinement et entièrement en Iran, Hélène Salon ?
En Irak. Bon, ils sont très présents, hein. On voit en fait, l'Iran et les États-Unis sont les deux grands partenaires stratégiques de l'Irak. Et on l'a vu à la fois dans la bataille contre l'État islamique et maintenant après cette bataille. Ces deux partenaires restent très présents. Ils ont réussi à coopérer indirectement par le biais du gouvernement irakien durant la bataille. On voit que maintenant ça se complique et les déclarations, la visite de Trump, ces déclarations qui en fait place l'Irak en porte-à-faux vis-à-vis de ce jeu d'équilibrisme.
Ces déclarations, précisément ?
Dire, en fait, on est présent en Irak pour
surveiller
l'Iran. Donc c'est aller contre le principe de neutralité de l'Irak que le gouvernement irakien essaye un peu de poser officiellement pour se préserver de devenir un peu le jouet d'un combat entre les deux puissances. Et Trump met à mal, en fait, ce jeu d'équilibrisme qu'essaye de jouer le gouvernement. Et d'autant plus que le gouvernement est coincé par une série d'acteurs locaux qui, eux, sont anti-américains. Et donc, il est pris entre voilà, ce jeu à la fois local et le jeu des deux grandes puissances.
Myriam Bedran.
Oui, je pense que c'est une description assez fidèle. C'est-à-dire qu'on a, d'un point de vue, je dirais, macro-géopolitique, deux puissances, qui sont les puissances dominantes aujourd'hui en Irak. Donc les États-Unis, d'une part l'Iran, mais ça remonte à 2003. En réalité, ça remonte à la guerre de 2003. C'est pas une influence qui s'est développée sur le court terme. C'est des liens historiques très forts, très profonds dans le cas de l'Iran. Et dans le cas des États-Unis, l'intervention de 2003 qui, évidemment, a aussi fait de cette présence américaine à la fois, je dirais, une malédiction pour les Irakiens et puis, on l'a vu avec la crise de l'État islamique, une nécessité. Et dans le même temps, on a un paysage irakien qui, lui, est très morcelé, où les allégeances sont très multiples. Donc, on a à la fois des acteurs irakiens qui vont jouer plutôt le côté Washington, qui ont maintenu des allégeances très fortes aux Américains, y compris jusqu'à dans la période actuelle. C'est une partie de l'opposition irakienne. D'autres sont aujourd'hui très liés à l'Iran et donc vont plutôt dénoncer cette présence des États-Unis et, comme je l'ai dit, c'est au cœur aujourd'hui du débat au Parlement, au sein du gouvernement et plus largement dans la société. C'est pas un débat nouveau par ailleurs, mais donc il faut prendre en compte cette fragmentation du paysage social, politique, y compris d'ailleurs aussi paramilitaire, parce que les milices sont elles-mêmes relativement divisées, pour comprendre non seulement la difficulté finalement à la fois pour les États-Unis et les Iraniens de manœuvrer, parce qu'ils doivent prendre en compte en réalité cette réalité irakienne, et puis dans le même temps du côté des Irakiens, la nécessité de jongler en permanence. Et ça, c'est un vrai problème. C'est à mon avis, ça a eu un impact aussi sur leur faculté à régler la crise politique et à rétablir des institutions, à enclencher le processus de reconstruction. Tout cela pèse en fait sur cette faculté politique d'enclencher les réformes au-delà des tares, entre guillemets, qui sont propres à cette classe politique.
Alors, vous y faisiez référence, Myriam Benrad, cette proposition de loi, elle a été déposée au Parlement irakien. Elle vise à imposer un calendrier de départ aux Américains. Il se trouve qu'elle pourrait faire l'unanimité parmi les deux principales forces de l'Assemblée. Je me tourne vers vous, Hélène Salon. La liste emmenée par le leader chiite Moqtada Sadr, qui se veut le champion de l'indépendance de l'Irak, et le bloc pro-Iran des anciens combattants de l'État islamique.
Il faudra voir ce qu'ils entendent par des engagements américains, parce qu'il y a encore quelques mois, justement, aux alentours de la campagne des élections de mai 2018, des élections législatives, lorsqu'ils étaient en campagne, ces deux coalitions. Moqtada al-Sadr et certains membres des milices chiites qui font partie de la deuxième coalition qui est en seconde position se disaient favorables en fait à un maintien des troupes qui servent à former ce qui va être le gros des troupes actuellement, parce qu'on on n'a pas eu de force coalisée au sol, si ce n'est pour la formation, le renseignement, l'appui un peu à des troupes irakiennes, mais il n'y a pas eu de troupes étrangères engagées. C'était beaucoup dans la formation et c'est ce qui va rester. Donc, il y a moins d'un an, ces deux coalitions, les deux membres de ces coalitions se disaient favorables au maintien des troupes. Pour eux, il n'y avait pas d'obstacle. Alors maintenant, on voit bien que les discours et les déplacements de Trump raidissent ces milices. Il y a aussi de l'affichage de leur part. Il faut aussi prendre en compte le jeu un peu politique, démagogique. Elles sont en train de se disputer pour nommer le ministre de l'Intérieur et de la Défense qui n'ont toujours pas été nommés. Donc il y a un peu de l'affichage aussi. Après, il faut voir s'il y a encore une escalade en fait entre l'administration américaine et les durs en Iran, s'il n'y a pas un retrait de certaines bases.
Alors les troupes, et on peut rappeler ce chiffre, 4500 soldats américains qui ont été tués entre 2003 et 2011, notamment dans des combats contre des milices chiites. Qu'est-ce que cela veut dire, Myriam Benrad, sur le plan d'abord politique? On peut imaginer une tension très forte. On a bien compris depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, Donald Trump entend bien reprendre la main sur un certain nombre de choses vis-à-vis de l'Iran. Comment est-ce que ça, tout cela va-t-il se traduire sur le théâtre irakien qui est celui qui nous intéresse pour cette émission aujourd'hui?
Bon, alors déjà quand même une chose, je pense que le sentiment anti-américain, il est très présent. Il y a effectivement des acteurs qui, comme je l'ai dit, pour des motifs stratégiques, utilitaires, y compris d'affichage, électoralistes, vont se réserver une marge de négociation avec les Américains, se réserver une marge de tolérance. Bon, le fait est que sans intervention aérienne des États-Unis, le combat contre l'État islamique aurait été très difficile, ce qui a aussi poussé au pragmatisme un certain nombre de miliciens à cette époque. Mais qu'on se le dise, ces acteurs, que ce soit Sadr ou d'autres milices qui sont apparus plus récemment et qui ont mené le plus gros du combat contre les djihadistes, ces milices ont combattu l'armée américaine pendant de très longues années. Si on remonte à la période d'occupation, qui a été plutôt l'objet de mes recherches, c'était d'une extrême violence. Donc c'est pas quelque chose qui s'est dissipé, ça a laissé des traces très profondes. Et au-delà des acteurs miliciens paramilitaires, la société irakienne n'est pas favorable au maintien de la présence américaine. En tout cas, dans la partie arabe de l'Irak, c'est très clair, que ce soit du côté sunnite ou chiite, on a la volonté de revenir à la souveraineté et de réaffirmer une indépendance. Donc ça, c'est très important. Alors c'est vrai qu'après Trump, par son style, ses provocations, sa visite aux soldats américains sans même dénier...
Rencontrer le chef du gouvernement,
etc. Tout cela va être pris comme une offense, une insulte supplémentaire. Il y a aussi les positions évidemment affichées vis-à-vis de l'Iran, la volonté de finalement de se servir de l'Irak comme poste d'observation, voire de réponse aux Iraniens, si conflit il y avait, ce qui est peu probable, cela étant. Bon, tout cela raidit la classe politique irakienne, relance finalement ce ressentiment ou le revivifie, mais ça ne signifie pas qu'il faudrait voir, si vous voulez, la période 2014-2017 comme une période de rapprochement où ça a été vraiment purement militaire en réalité.
Alors, qu'en est-il de l'autre côté, Hélène Salon, de la relation des Irakiens vis-à-vis de l'Iran? On peut rappeler que le commerce entre l'Irak et l'Iran va bon train. Là aussi, la question des sanctions américaines va se poser à l'Iran, à l'Irak assez vite. Alors, il y a, je crois, un délai qui a été donné de 3 mois supplémentaires. Mais voilà, comment se présente la situation et comment les Irakiens perçoivent-ils l'Iran aujourd'hui et la présence iranienne en Irak?
Alors, comme le disait Myriam, il n'y a pas beaucoup d'Irakiens qui aiment vraiment les Américains, mais on voit aussi le sentiment anti-iranien monter énormément chez les Irakiens. Et ça, c'est le résultat de la prise d'influence de l'Iran depuis 2003, qui est devenu vraiment le parrain faiseur de roi, donc à Bagdad, qui soutient les partis islamistes chiites qui sont au pouvoir. Donc en fait, tout ce qui est le résultat de l'échec de ces partis islamistes dans la fourniture de services, dans la corruption, dans tous les problèmes que rencontre aujourd'hui l'Irak de déliquescence des infrastructures, tout cela est donc reproché par la population et maintenant de façon assez majoritaire, que ce soit dans le secteur sunnite que le secteur chiite. C'est surtout là qu'on voit les manifestations aujourd'hui. On reproche à ces partis d'avoir mené l'Irak au bout de 15 ans dans une impasse, et à son parrain iranien. Donc il y a un très fort sentiment de rejet de l'Iran, et moi je l'ai notamment observé, je l'ai trouvé d'ailleurs plus fort dans le sud, qui est majoritairement chiite, donc Bassora, qu'à Bagdad. Parce qu'ils subissent cette influence encore plus fortement qu'à Bagdad. Que ce soit au niveau économique, politique, présence des milices, à Bassora, Najaf, Karbala, on ressent beaucoup plus l'influence donc des milices chiites liées à l'Iran et de l'Iran. Donc voilà, ce sentiment monte énormément. Après, l'Iran est un pays voisin, à la différence des États-Unis. Voilà, les États-Unis sont un partenaire lointain. L'Iran est un pays voisin, donc effectivement, il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup de produits importés d'Iran. Donc ça arrangerait bien quand même les Irakiens qu'on redéveloppe le secteur manufacturier et industriel. Après, le gouvernement est dans une position assez délicate, c'est-à-dire que, comme je disais, il veut garder un principe de neutralité et d'équilibre. Donc, il assure à l'Iran qu'il n'appliquera pas les sanctions de façon exigeante, mais il doit en fait respecter ces sanctions, et il le fait. Quand on voit dans la réalité, ils sont très dépendants par le pétrole, donc du marché international. Les avoirs financiers, il y a beaucoup d'avoirs financiers aux États-Unis, donc ils sont très dépendants de ce régime de sanctions et sont obligés de le respecter. Et on a vu un responsable iranien se plaindre justement que l'Irak parle beaucoup, apporte beaucoup son soutien par les mots à l'Iran et contre le régime de sanctions, mais que dans les faits, elle l'applique et c'est vrai.
Alors, vous rappeliez le pétrole. On peut donner à nos auditeurs l'élément suivant, qui est que l'État irakien est redevenu au mois de septembre dernier, donc 2018, le deuxième producteur de l'OPEP. Alors, ce que j'aimerais, on va parler bien sûr de la reconstruction. L'État irakien l'estime à 82,2 milliards de dollars. On parlera aussi de la reconstruction humaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour clore un peu cette première partie d'émission, après ça on développera les autres thématiques, l'Irak est-il aujourd'hui un pays plus stable qu'en 2003, plus de démocratie, peut-être, sans doute, le reste, Myriam Benrad?
Si vous voulez, le problème avec l'Irak, la notion de stabilité, elle est problématique. Ça dépend de ce que vous définissez comme stable. En 2003, l'Irak n'était pas en réalité stable. C'est pas un pays ravagé par la guerre, mais c'est pas un pays stable non plus. C'est un pays qui commençait à peine à se relever d'un lourd régime de sanctions. On avait un début de normalisation, et puis bon, la guerre de 2003, là, cette intervention américaine qui va être un parfait fiasco. Et ensuite, on a donc une série de séquences, en fait, dont celle de 2014 avec la montée en puissance de l'État islamique, la prise de Mossoul, qu'on pense refermer en 2017, alors qu'en réalité, sur le temps long, encore une fois, cette activité insurrectionnelle, elle n'est pas nouvelle et elle a toujours perduré. Donc, on va avoir la perception que les choses vont mieux ou sont stabilisées, alors que je pense qu'on est plutôt dans une instabilité chronique. Alors maintenant, tout dépend aussi des Irakiens, parce que en fonction des communautés que vous allez interroger, certains vont vous dire que c'est mieux, qu'il y a effectivement un processus démocratique, des élections.
Qui peut dire cela?
Par exemple, je suis partie récemment à deux festivals de spectacles vivants avec des artistes irakiens qui étaient invités en France et qui pensent que ça va mieux. Ils ont payé le prix de la guerre, des destructions, mais ils votent. Ils peuvent faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites sous la dictature de Saddam, ce qui n'est pas faux par ailleurs. Mais alors, vous allez du côté, par exemple, des communautés sunnites, vous leur demandez est-ce que c'est mieux? Non, là, il y a vraiment cette, dans le temps long, ce ressentiment, ce rejet du nouvel ordre politique qui a été établi en 2003, ce rejet des élites, ce rejet de l'Iran, des chiites. Il y a une communautarisation, évidemment, qui est indéniable. Donc, tout dépend, en fait, des territoires et des Irakiens. Il n'y a pas, je dirais, un consensus. Certains vont, encore une fois, considérer que c'est mieux. D'autres vont nourrir cette nostalgie de l'ancien régime. On entend souvent aussi des gens vous dire, mais non, finalement, à quel prix cette démocratie? Donc, je pense que l'Irak n'est pas un pays stable au sens où on l'entend. Je crois que cette instabilité, d'ailleurs, elle s'est normalisée. C'est la manière d'être irakien, de vivre en Irak aujourd'hui, c'est accepter cette instabilité. Ça renvoie aussi, je vais finir là-dessus, à la question de la gouvernance. Est-ce que l'Irak est un pays gouvernable? Parce qu'on parle beaucoup de reconstruction, on va y revenir, de réformes, etc. Mais est-ce qu'on peut gouverner ce pays aujourd'hui en l'état, avec tout ce qui s'est produit et cet état de, comme je l'ai dit, de division, cette absence de vision commune? Et puis c'est là que la question de l'État se pose. Quelle vision l'État aussi diffuse ou infuse? Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose, en fait.
Hélène Salon.
Oui, on est sur des équilibres précaires. On voit bien, effectivement, quand on va à Bagdad, depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, on est dans un retour à une sorte de normalité, parce qu'on était préservés, ça a été un peu la bulle, qui étaient loin du front, qui étaient presque plus affectés par les attentats. Donc, eux ont un sentiment de mieux vivre. Mais après, ils ont bien conscience qu'aucun des problèmes n'a été résolu. On est sur un gouvernement qui n'est pas achevé d'être formé, qui n'a pas fait la lutte contre la corruption qu'il annonce, les réformes qu'il a promises, la réconciliation nationale, la déconfessionnalisation des dossiers. Donc non, en fait, rien n'est réglé. C'est juste que pour l'instant, on a l'impression que ça tient. On est aussi sur des acteurs qui sont potentiellement une menace, comme les groupes paramilitaires qui sont entrés au Parlement et qui sont encore dans le jeu politique, donc n'ont pas intérêt non plus à déstabiliser par la force. Mais peut-être que si ça bloque et qu'on continue dans cette impasse et que rien ne bouge, parce qu'il faut dire que... Donc on a eu des élections législatives en mai, un Premier ministre qui n'a réussi à être désigné qu'en octobre, et depuis il n'arrive pas à nommer le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Et si ça continue à bloquer ainsi, quelle politique va-t-il pouvoir mettre en œuvre ?
Un gouvernement qui n'est pas terminé. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Hélène Salon et Myriam Benrad, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Irak. Nous retrouvons nos invités, Myriam Benrad, politologue, spécialiste du monde arabe, professeur associé en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, auteur de l'Irak par-delà toutes les guerres, idées reçues sur un état en transition aux éditions Le Cavalier Bleu, et Hélène Salon, journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de l'État islamique de Mossoul aux éditions La Découverte. On le disait dans la première partie de l'émission, Bagdad a proclamé la victoire contre l'État islamique fin 2017. L'organisation n'a pas pour autant disparu, elle continue de mener des attaques meurtrières. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la situation par rapport à l'État islamique ? Myriam Benrad.
C'est toujours une insurrection qui a cours, mais là je reviens à ce que je disais dans la première partie de l'émission. De la même manière qu'ils ne sont pas apparus en 2014 au-delà de la couverture médiatique qui va être faite, parce qu'on a ce défilé d'hommes en noir, les Toyota, les chevaux, enfin toute la mise en scène qui est celle des djihadistes, qui sont d'ailleurs très professionnalisés en la matière, mais ils sont là depuis 2003.
Depuis l'invasion américaine.
Oui, ils sont là depuis. Mais même avant, ils étaient déjà là, en fait. Il y avait une présence, un embryon de présence dès 2001-2002. On n'a pas vraiment écrit, en fait, toute l'histoire non plus des origines du groupe de Zarqawi. Et on a l'impression qu'on découvre tout ça, mais non, c'est une insurrection de long terme. Qui continue, qui fait des morts chaque jour encore à travers des attentats, des assassinats ciblés. Bon, par exemple, un certain nombre de femmes, députées, militantes, activistes de toutes sortes qui sont prises pour cible. Ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des campagnes de ce type menées par les djihadistes qui ciblaient ces groupes et d'autres. Donc là, il faut vraiment, je pense, se détacher des annonces qui sont faites à la fois par la coalition, par les Irakiens, par d'autres acteurs. Que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, loin de là. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que l'Irak. C'est un mouvement qui est transnationalisé et qui va continuer d'agir sur un certain nombre de théâtres, partout où ils peuvent agir, c'est-à-dire partout, pour revenir à la question de l'État, où il n'y a pas d'institution fonctionnelle, où ils vont perpétuer leur popularité sur des thèmes tels que la lutte contre la corruption, l'absence de services, les abus commis par les appareils militaires, sécuritaires sur place. C'est ça le discours djihadiste. C'est le rejet de l'ordre en place. Et malheureusement, on a toute une jeunesse dans ces pays, qu'il s'agisse de l'Irak ou d'autres, qui est réceptive, pas parce qu'ils voient rien. Quand on leur parle d'État, de gouvernement, etc., ils voient pas de progrès. Donc, évidemment, ça reste des facteurs de recrutement, de mobilisation, de radicalisation. Et là, la seule réponse, c'est la prise en charge des demandes, des revendications de ces gens.
Alors, justement, rejet de l'ordre en place. Hélène Salon, vous étiez, il n'y a pas longtemps, en Irak. Vous avez rapporté tout un reportage qui a été publié dans le quotidien Le Monde. C'est l'occasion maintenant, peut-être, de parler de la situation dans le nord de l'Irak. Alors, on peut juste rappeler qu'en 3 ans de règne, donc 2014-2017, ça se poursuit encore, l'État islamique a laissé derrière lui plus de 200 charniers contenant plus de 12 000 corps à travers l'Irak. Alors l'ONU parle de génocide à l'encontre des Yazidis, dont des milliers de femmes ont été réduites à l'esclavage sexuel. Vous laissez entendre dans cet article que, alors d'abord toute la situation très compliquée pour les Irakiens qui ont vécu en zone contrôlée par l'État islamique pendant 3 ans, qui sont eux-mêmes considérés comme des terroristes et qui ne reçoivent aucune aide finalement du gouvernement central, du gouvernement de Bagdad, à domination tout de même chiite.
Oui, là donc je suis retournée à Mossoul un an et demi après la fin de la bataille que j'avais couverte dont on imaginait bien à quel point non seulement le règne de l'État islamique mais la bataille avait meurtri la population. En y retournant et en parlant calmement avec tout le monde, on se rend bien compte qu'on est encore un an et demi après dans une sorte de cimetière à ciel ouvert où il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu quelqu'un, soit pendant la période de règne de l'État islamique, soit pendant la bataille, ou maintenant, après la bataille, arrêté par les forces de sécurité pour suspicion d'appartenance à l'organisation terroriste. Et ça, il y a plus de 10 000 hommes qui sont de Mossoul qui ont été arrêtés. Donc c'est une ville qui est profondément meurtrie. On n'est toujours pas capable de mettre un chiffre, en fait, sur les morts de la bataille, donc entre octobre 2016 et juillet 2017. On n'est pas non plus capable de mettre un chiffre sur le nombre des disparus et morts sous le règne de l'État islamique, parce que pour les charniers, c'est des estimations, mais ils n'ont pas été été fouillés et ce qu'on me disait et que j'ai écrit dans l'article, c'est qu'ils ne seront certainement jamais fouillés comme ne l'ont pas été non plus les charniers de Saddam Hussein.
Par manque de moyens.
Alors les Irakiens, l'équipe, le département des charniers, qui d'ailleurs a été créé à l'époque de Saddam, dit que c'est par manque de moyens. Des sources diplomatiques à qui j'ai parlé dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt du gouvernement,
de volonté
de faire ce travail de mémoire, tout autant que de faire le travail de compensation. Alors, il semblerait qu'il y ait actuellement des commissions qui ont été mises sur pied par le gouvernement pour commencer à faire la liste des gens à compenser. Il faut voir que c'est vrai que le gouvernement irakien a été face à la crise, la chute des cours du pétrole, le coût de la guerre n'avait plus d'argent. Mais en fait, si on regarde depuis 2003, pratiquement personne n'a été compensé pour les victimes d'Al-Qaïda, pour les victimes d'autres conflits. Donc, il y a vraiment un problème du gouvernement de prise en compte, voilà, à la fois de la nécessité de la mémoire, de la réconciliation, et aussi de l'effet que peut avoir sur les populations, sur une re-radicalisation de certaines populations, des lenteurs de la reconstruction ou du déni de reconstruction, du déni de retour de certaines populations chez elles. Donc il y a énormément de problèmes et qui font craindre à beaucoup d'observateurs qu'on est déjà en train. Et moi je suis tombée sur des gens profondément inquiétants qui étaient dans une colère qui à tout moment se transformera en prise d'action. Parce qu'il y a énormément de rancœur qui est en train d'être créée, notamment aussi ce que je disais par les arrestations massives, tortures en prison, conditions de détention déplorables, qui ont des relents en fait confessionnels. C'est-à-dire que, comme vous disiez, les autorités chiites qui voient un peu la population sunnite comme, on va dire, docile ou amadouée par les djihadistes.
Ce qui fait effectivement ce qu'évoquait à l'instant Myriam Benrad, le risque de radicalisation. D'ailleurs, vous le citez hein, dans l'article, sans donner le nom, mais en tout cas une source onusienne qui déplore effectivement l'absence de coopération des autorités chiites de Bagdad. Un commentaire peut-être, Myriam Benrad, sur cette difficulté finalement de réconciliation avec peut-être aussi quelques éléments. Cette population du nord de l'Irak, ça concerne combien de personnes par rapport aux 40 millions de la population globale des Irakiens?
Bon, c'est 3,5-4 millions pour la province de Ninive sur 38, c'est ça, il me semble. Après, là où je voudrais ajouter, il faut faire attention à pas toujours être dans la dialectique chiite-sunnite, parce que ce qu'on observe aussi, et ce qui a été aussi des facteurs de radicalisation, c'est qu'au sein même de ces communautés, c'est-à-dire moi je l'ai observé à Fallujah, où j'étais retournée un an après la bataille, et là on le retrouve à Mossoul, à Ninive, il y a aussi exclusion par les membres même de la communauté qui n'ont pas été dans l'adhésion à l'État islamique ou avant Al-Qaïda, de ceux qui l'ont été. Et ça va jusqu'à leurs femmes et enfants. Donc on observe un phénomène assez inquiétant cette fois-ci avec l'État islamique qui n'avait pas eu cours après Al-Qaïda, c'est qu'il y a bannissement des femmes et des enfants de combattants ou de sympathisants par les membres même de la communauté, donc par la communauté, les chers sunnites qui bannissent, parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu un combat aussi au sein entre les pro-EI et les anti-EI avec l'État islamique qui a tué énormément de sunnites. Et donc ceux qui étaient contre l'État islamique aujourd'hui se vengent. Et c'est aussi là où l'État irakien n'a pas aussi les outils pour arriver à travailler de façon massive, hein, parce qu'on parle d'une population qui a été touchée, qui est énorme, sur voilà, la réconciliation à la fois entre communautés et intra-communautaires. Et il y a un travail énorme. Et on voit des blocages, parfois des non-retours de tribus, de clans, de populations, du fait de leurs anciens voisins. C'est toute une société qui est divisée de l'intérieur. Enfin, il y a un travail énorme.
Myriam Benrad, un commentaire?
Oui, la division de la communauté sunnite, elle est à l'œuvre depuis 2003. Parce qu'en réalité, on a aussi cette perception, je pense, des sunnites. Enfin, c'était notamment le cas pendant l'occupation américaine. On avait cette perception d'une macro-communauté opposée aux Américains. Ils étaient majoritairement opposés aux Américains, mais ils n'étaient pas tous pro-djihadistes. D'ailleurs, durant les deux premières batailles de Fallujah de 2004, il y a eu des oppositions très importantes. Il y avait déjà des atrocités commises par les djihadistes, le groupe de Zarqawi. Donc tout cela est dans la lignée de ce qui s'est passé précédemment, en fait. Mais c'est vrai que l'État islamique, après 2014, a encore davantage, je dirais, polarisé, fragmenté cette communauté sunnite introuvable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question des prisons, de la détention, des abus justement reprochés à cet État irakien. Là, je parle donc vraiment de la question des sunnites. Ça reste un vrai problème. C'est les prisons ont été le lieu de naissance, de développement de l'État islamique, entre autres, mais aussi d'autres groupes. En tout cas, un facteur de ressentiment très important. Et là, je suis tout à fait d'accord. Si on s'intéresse aux émotions collectives qui prévalent finalement parmi ces communautés, il y a beaucoup de colère, de ressentiment, ça ne passe pas. Et là encore, s'il n'y a pas une réponse véritable de la part des autorités, de la part de l'État irakien, à qui d'ailleurs on reproche d'avoir laissé tomber Mossoul en 2014. Si on s'intéresse aux récits qui ont entouré la chute de Mossoul, il y a aussi toute une partie de la population qui considère qu'en réalité l'armée les a laissés tomber. Donc on ne peut pas résoudre ces ressentiments, les contrecarrer ou essayer de trouver un début de solution s'il n'y a pas, encore une fois, une réponse politique forte. Et je ne crois pas en l'état que les autorités à Bagdad, malheureusement, aient une quelconque vision pour une reconstruction qui, d'ailleurs, dans les faits, n'a pas eu lieu. Il y a des projets, quelques projets, il y a quelques entreprises étrangères qui aident, mais ça reste du bricolage. C'est pas un vrai plan de reconstruction. Donc c'est d'ailleurs problématique parce qu'au moment où les bailleurs de fonds internationaux et un certain nombre de pays s'engagent dans des plans de reconstruction assez ambitieux à Koweït ou ailleurs, d'ailleurs c'est pas non plus nouveau, depuis 2007 il y a en fait un cadre multilatéral de reconstruction de l'Irak, rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, on n'a pas une classe politique qui est vraiment, concernée par le bien-être collectif, le bien-être national. Donc la réconciliation nationale, c'est une coquille vide en l'état, qu'on se le dise. Elle a été lancée officiellement en 2006 par l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, qui avait fait de cette réconciliation nationale sa principale promesse. Et ça a été quand même un facteur d'élection pour lui, parce que c'était pas un poids lourd de la politique irakienne. Et c'était autour de cette promesse qu'il a réussi à s'imposer, outre le soutien qui lui avait été apporté déjà à l'époque par les Américains et les Iraniens. Donc on regarde 13 ans plus tard. Il s'est passé quoi ? Rien. Qu'est-ce qu'on entend ? Quelle nation ? Et puis dans les faits, si vous voulez, c'est pas une question de mots. Il faut que les Irakiens maintenant voient des améliorations concrètes sur le terrain. Qu'on parle des sunnites, mais aussi des populations chiites, parce qu'il y a eu une vague de manifestations dans les provinces du Sud, qui montre aussi que la question sociale, elle est très réelle. Rien de nouveau là non plus. Des manifestations dans les provinces du Sud, à Bassora ou ailleurs, on en a eu toute une série dans les 15 dernières années. Il y a une question sociale, des conditions de vie extrêmement précaires dans certaines villes, certains endroits, Bassora ou d'autres. Quelle réponse à cette problématique sociale ? Parce que c'est vraiment ça la question. Et l'État islamique aussi est l'enfant monstrueux, entre guillemets, de cette question sociale qui n'a pas été résolue.
Donc vous l'avez dit, beaucoup de dégâts, une déstructuration de la société irakienne. Alors on a vu l'ONU développer des projets de commission justice et vérité dans d'autres pays. Peut-être que pour l'Irak, c'est une question qui pourra être, avec le communautarisme que vous évoquiez, peut-être plus compliquée, étant donné toutes les imbrications. C'est un peu comme une poupée russe, finalement, cette affectation de la société irakienne de ces années de guerre. La reconstruction, vous l'évoquiez, l'État irakien l'estime à 80,2 milliards de dollars. Elle ne concerne pas seulement le Nord, mais aussi les provinces du Sud, qui n'ont pas été sous la coupe de l'organisation djihadiste, mais a subi les répercussions économiques d'un pays en guerre. Alors, j'en reviens à ce que j'évoquais en début d'émission. Ce balai diplomatique à Bagdad aujourd'hui, j'ai cité Donald Trump, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le déplacement du roi Abdallah II de Jordanie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian pour la France, le chef du gouvernement italien. Comment évaluer ce balai diplomatique, Hélène Salon ?
On est toujours dans des intérêts militaires parce que, comme on le disait en début d'émission, l'Irak reste stratégiquement importante entre l'Iran et la Syrie et en elle-même militairement. On est sur un pays qui a d'énormes besoins de reconstruction et on l'a vu à Koweït, beaucoup des promesses n'étaient pas des dons mais des investissements, des crédits. Donc l'Irak, qui est un pays riche, comme vous le disiez, qui redevient le deuxième producteur de pétrole, pourra bientôt financer sa reconstruction. Elle a besoin d'un coup de pouce qui était les 30 milliards, mais après elle pourra payer à toutes ses entreprises et aux bailleurs internationaux sa reconstruction quand voilà le pétrole reviendra à un prix intéressant pour elle. Et il y a les intérêts économiques, parce que c'est tout un pays où il faut refaire toutes les infrastructures. Donc on parle notamment par rapport aux sanctions, si l'Irak, et c'est ce sur quoi misent les États-Unis pour qu'elle se désengage de la dépendance iranienne sur le gaz et l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut refaire tout le système électrique. C'est des potentialités de contrats énormes. Les marchés pétroliers, donc deuxième producteur mondial, marché militaire de l'armement. Donc voilà, il y a des missions comme ça d'hommes politiques qui vont prospecter, qui vont essayer de défendre leurs intérêts à la fois militaires, économiques, politiques.
Alors on n'a pas parlé de la Russie jusqu'à présent. La Russie en Irak, Myriam Benrad.
La Russie joue ce jeu exactement de positionnement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Russie sur le dossier syrien, évidemment, parce qu'il y a intervention militaire. Mais la Russie a des liens historiques très importants avec les Irakiens. Et ça, il faut quand même le dire. L'ex-URSS et l'Irak ont été des partenaires, en tout cas, à un certain moment de l'histoire de l'Irak. Il y avait un parti communiste irakien très important, très influent. Et puis, généralement, les Russes ont bonne presse en Irak. Il y a quand même une affinité, je dirais, beaucoup plus importante, par exemple, avec la Russie chez certaines élites irakiennes qu'avec les Américains, ça c'est évident.
En conclusion, si tant est qu'on puisse conclure aujourd'hui sur l'Irak, bien évidemment, on a évoqué tous ces changements, le départ annoncé des soldats américains de Syrie, avec un recentrage très probablement sur l'Irak. Et on l'a dit dans la première partie de l'émission, mais peut-être qu'on peut développer juste pour donner et lancer des perspectives. Beaucoup de tensions à venir, Hélène Salon.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on est toujours encore dans une période un peu au carrefour, voilà, croisée des chemins, comme on dit, qui est que l'Irak, voilà, a énormément d'attention internationale, de potentialité d'avoir de l'aide, qu'elle soit des investissements ou des dons. Elle a une population qui a voulu croire en un gouvernement qui s'est présenté comme contre le confessionnalisme et la population est prête à le suivre. Donc il pourrait y avoir comme ça une reconstruction possible, des réformes, parce qu'on est avec une opinion publique qui pousse, qui est finalement la meilleure chose qui soit arrivée à l'Irak récemment, c'est cette pression de la rue qui met un peu les politiciens, les hommes politiques face au mur en disant maintenant faut y aller.
Et quelles sont les demandes en termes de priorité
C'est vraiment infrastructure, services publics, travail, mais on voit que ça bloque toujours, que c'est toujours une classe politique qui est prise dans ses petits intérêts élitistes, qui continue à développer la corruption, à ne mener aucune réforme. Donc il y a un risque, encore une fois, de pourrissement. Et notamment, là, on voit le risque aussi évident dans ce conflit entre États-Unis, Iran, où l'Irak pourrait devenir à nouveau, redevenir un terrain de jeu de ce conflit qui s'était apaisé entre les deux puissances sur le terrain irakien. On voit bien qu'il y a les milices qui sont là. Elles sont prises dans un jeu politique, donc elles ont baissé les armes, mais elles pourraient les reprendre pour attaquer des éléments américains, pour prendre la main sur le gouvernement. Voilà, il y a beaucoup de risques dans cette montée des tensions et l'impasse politique aussi et le blocage du gouvernement.
Myriam Benrad.
Oui, écoutez, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un problème. La crise irakienne est une crise systémique. Et puis, on ne peut pas résoudre ou s'attaquer à un volet si on ne s'attaque pas à l'autre en même temps. Donc, c'est tout un pays, en fait, à reconstruire, qui est en état de délabrement ou de destruction depuis très, très, très longtemps. Bien avant l'intervention américaine, il y a eu une guerre, rappelons-le, contre l'Iran qui a été dévastatrice, la guerre du Golfe, les sanctions des années 90. Bon, maintenant, là où je vois, moi, quand même un soupçon d'espoir, c'est effectivement cette nouvelle génération qui porte une autre voix, qui s'oppose, qui a des vraies revendications, qui est ouverte aussi au monde, au reste du monde, qui regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même bien, parce qu'on se dit, bon, malgré tout, c'est pas l'apathie qui l'emporte, il y a une vraie énergie parmi ces jeunes. Moi, c'est vrai, là, vraiment, là, je vois la potentialité d'un renouvellement générationnel, d'un renouveau donc pour ce pays.
Merci pour cette note d'optimisme finalement qui nous permet de terminer cette émission sur l'Irak. Merci à nos invités Myriam Benrad. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, professeur associé en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas et auteur de l'Irak par-delà toutes les guerres, idées reçues sur un état en transition aux éditions Le Cavalier Bleu, et Hélène Salon, journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de l'État islamique de Mossoul aux éditions La Découverte. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée au Japon et aux défis de l'archipel dans son environnement régional face à une Chine de plus en plus puissante et une Amérique moins présente. À demain.